Je me souviens de ces phrases dans ce roman de Leonora Miano qui s'appelle « La saison de l'ombre », prix Femina en 2013, je crois. C'est une voix qui dit « Je suis comme tous ces gens, nous sommes ceux que l'eau n'a pas emportés, ceux à qui la terre a tout retiré. On nous a dérobé le chemin qui nous aurait permis de rentrer chez nous. On nous a arraché nos noms, nous n'avons pas pu nous échapper, nous recréer nous-mêmes quelque part. » Je sais plus vraiment le contexte, mais je me souviens de ces mots parce qu'ils résonnent avec le projet de ce livre qui était de prendre la parole, de raconter une histoire qui avait toujours été racontée par d'autres. En l'occurrence, l'histoire de l'esclavage en Afrique subsaharienne, dans un temps ancien, indéfini, qui rappelle celui des contes si effrayants, dans ce lieu si vaste où les noms ne renvoient à rien de ce que l'on connaît, de ce qu'on a par la suite nommé, dans une langue féminine et collective qui résistait à chaque page au récit officiel de l'homme blanc qui avait si bien su imposer l'histoire de la traite et la façon de la raconter. Je me souviens de ces phrases du roman de Leonora Miano, sans doute parce qu'elles étaient en elles-mêmes un manifeste d'écriture et un modèle d'émancipation par la narration, par le fait de prendre en charge les mots, la parole, le récit. On nous a dérobé le chemin qui nous aurait permis de rentrer chez nous. On nous a arraché nos noms. Nous n'avons pas pu nous échapper, nous recréer nous-mêmes quelque part. Et si le lieu de cette recréation, c'était l'art ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelles histoires nous raconte mon invité d'aujourd'hui ? Elle est incontestablement l'une des plus grandes voix du continent africain. Née au Bénin, elle croule sous les Grammy Awards et les invitations à venir se produire devant les puissants du monde entier. Et avec les plus grands, elle est aussi une femme de parole et de conviction. Son nouvel album Celia, en hommage à la grande dame de la salsa cubaine Celia Cruz, vient de paraître. Bonjour Angélique Kidjo.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Oh, merci de m'avoir invitée.
Ce matin.
Je suis honorée d'être là.
Quand est-ce que vous avez compris que votre histoire à vous, vous seule, pouviez la raconter?
Je l'ai compris en grandissant dans une famille où la parole était libérée, dès le départ. Mon père et ma mère disaient toujours, si vous ne parlez pas, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans votre tête, on ne peut pas vous aider. Donc vous êtes artisan de votre bonheur et de votre malheur si vous ne parlez pas. Donc moi j'ai grandi, déjà j'étais la plus bavarde de la famille, j'arrêtais pas. La parole libérée est quelque chose qui est très puissante parce que ça vous permet de connaître votre identité. Je posais beaucoup de questions. Dans ma famille, mon surnom dans ma famille, c'est quand, quoi, comment. Et si on ne pose pas de questions, on ne sait pas. Donc, par la musique, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, que je n'arrivais pas à comprendre.
Mais Angélique, ou plutôt quand, quoi, comment, au début des années 60, si c'était possible dans votre famille, ce n'était pas forcément vrai partout. Qu'est-ce qu'on attendait d'une petite fille à l'époque?
C'est qu'une fille qui naît en Afrique aujourd'hui encore n'a pas d'identité, elle appartient à son père. On donne plus d'importance à un garçon qu'à une fille et que la fille est perçue comme une marchandise de prestige, faire des mariages avec des gens qui sont connus ou justement se dire, moi je n'ai pas les moyens de la nourrir, pourquoi je ne la marierai pas quelqu'un d'autre qui prendra la responsabilité de ma mère.
Ça veut dire que si vous êtes devenue aujourd'hui la femme que l'on écoute, c'est aussi grâce à votre père et grâce à cette famille qui vous a laissé vous exprimer, laissé parler.
Absolument. Mon père disait toujours, mes enfants ne sont pas des marchandises. Mes filles comme mes garçons. Il n'y a pas de problème d'égalité des sexes ici parce que le cerveau n'a pas de sexe. Donc à partir de cet instant-là, ça a été clair pour mon père de laisser ma mère complètement libre. D'ailleurs, des amis à lui disaient toujours, mais Franck, tu te prends pour un blanc ou quoi? Mon père dit, mais je suis bleu, je suis vert, je suis toutes les couleurs. Le plus important pour moi, c'est que ma femme soit heureuse. Si elle est heureuse, je suis heureux.
Et avec quel modèle de femme est-ce que vous avez grandi, Angélique?
Oh, avec des femmes très, très fortes.
Ah, c'est vrai?
Très fortes. Mes deux grand-mères sont devenues veuves à l'âge de 35 ans, je crois. Et au moment où elles sont devenues veuves, elles devaient épouser quelqu'un d'autre de la famille, de leur mari. Et toutes les deux ont dit non, on ne veut plus. Donc, quand on dit non, on n'a plus le soutien de la famille du mari. Donc, on se retrouve seule à élever ses enfants. Et elles ont réussi.
Alors, c'est passionnant parce que depuis toujours, à travers vos engagements à l'UNICEF, mais aussi par le biais de votre fondation, vous battez pour l'éducation, et notamment l'éducation des filles. Pourquoi les filles sont-elles pour vous l'avenir de l'Afrique? C'est ce que je vous ai entendu dire un jour, Angélique Kidjo.
Quand on émancipe une femme, ma maman étant éduquée, elle a compris beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais eu de maladie qui pouvait me rendre vulnérable parce que les vaccinations, elle y croyait. Elle nous apprenait complètement l'hygiène. L'appareil de reproduction de la femme, c'est elle qui m'a expliqué la première fois ce que c'était que les périodes de fécondation, de fécondité, comme les périodes... C'est un truc de fou. Et quand mes copines venaient à la maison... C'est maman qui leur expliquait leur propre sexualité. Tout le monde me disait, mais tes parents, ils sont fous. Chez moi, je ne peux pas parler de ça, mais au moins, je peux être ici et parler librement. Donc, moi, j'ai toujours eu la parole libérée. Et j'ai toujours posé des questions par rapport à l'esclavage. C'est par la musique que l'esclavage est venu dans ma sphère.
Alors justement, le Bénin, vous l'avez quitté il y a 36 ans, Angélique Kidjo. Quand vous êtes arrivée d'abord en France, de quelle façon est-ce que vous aviez l'impression que les Occidentaux regardaient l'Afrique ?
Ah, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Occidentaux n'ont pas une connaissance approfondie de l'Afrique. Même les Occidentaux qui vivent en Afrique vivent entre eux. Ils ne vivent pas vraiment avec les gens. Il y a cette notion que quand les Africains sont sales, il y a des maladies, il y a ceci, il y a cela. L'histoire de l'Afrique a été racontée pour, tout simplement pour des raisons économiques. L'esclavage, c'est une raison économique. C'est, on a voulu de la main d'œuvre qu'on ne devait pas payer en commettant un crime et pour ne pas être responsable de ce crime. Jamais, ne jamais avoir à s'excuser. Tout est notre faute.
On retrouve toutes ces problématiques et toutes ces interrogations toujours chez Léonore Almiano également, que je citais en ouverture de cette émission. De quelle Afrique est-ce que vous rêvez, vous, d'une Afrique comme elle, qui parvienne à écrire sa propre histoire, ou plutôt ses propres histoires?
Absolument. Connaître sa culture déjà au départ et son histoire, c'est très puissant. Donc il faut que à l'école, dans les écoles en Afrique, on commence à lire des auteurs africains. Que les livres scolaires ne viennent plus de la France ni de l'Angleterre, que ce soit nos livres, nos histoires, nous-mêmes. Les mathématiques, il y a des mathématiciens africains, on peut les expliquer d'une façon différente. Il y a des femmes mathématiciennes au marché qui n'ont jamais été à l'école, qui peuvent faire des calculs absolument déments. Donc, c'est-à-dire qu'il faut utiliser nos propres traditions et les moderniser. Il faut coûte que les jeunes Africains connaissent leur histoire, connaissent cette histoire de l'esclavage pour savoir que quand on est en face de l'autre, quand on est en négociation, ce n'est pas l'intérêt de l'autre qui passe, c'est votre intérêt.
Et il faut également écouter des artistes africains et africaines, avec des artistes comme Myriam Makeba, mais aussi encore aujourd'hui Oumou Sangaré, Fatoumata Diawara ou Rokia Traoré. Vous êtes, Angélique Kidjo, je le disais, l'une des grandes voix de ce continent et de toutes ses richesses. Angélique Kidjo, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est ça. C'est ça aussi. Et puis c'est cette merveilleuse reprise de Porgy and Bess, Summertime. Et puis je pense aussi à la plus belle version du boléro de Ravel. Elle est incroyable, cette version, Angélique Kidjo.
Ben, cette version, cette chanson, j'ai décidé de la faire quand je suis arrivée en France. Dans ma première école de musique, j'écoutais beaucoup de musique classique avec notre prof de voix. Et un jour, elle a joué le boléro de Ravel. Et moi, je suis restée vraiment silencieuse pour écouter parce que ça m'a ramenée à la maison.
Qu'est-ce qu'il avait compris en 1928, Maurice Ravel, des musiques africaines? En quoi l'influence de l'Afrique est-elle palpable dans le boléro pour
Il a compris qu'en utilisant le mot d'Africain, les mots d'Africain, où c'est la continuité d'une même rythmique peut vous amener à créer différents mondes et différentes énergies. Et ça qui est incroyable, parce que après l'avoir écouté la première fois, j'ai dit que ça c'est africain, je me suis fait assassiner par tout le monde. Tout le monde m'a dit, mais toi, tais-toi, tu me fatigues avec ton Afrique, là.
Voilà. C'est passionnant, parce que ça dit quelque chose de la relation de toujours entre la France et le continent africain, relation souvent violente, relation de domination. Pourquoi il y a 36 ans, est-ce que vous avez quitté le Bénin pour la France, vous?
Mais moi, j'ai quitté le Bénin à cause de la dictature communiste. Mon père nous disait toujours, il faut être libre. Pour être libre, il ne faut pas être lié à un parti politique. Parce que ça part et ça vient, surtout quand on est un artiste. Il faut être la voix de tout le monde. Il faut être la personne qui peut créer des liens, qui peut créer des ponts. Et moi, on m'a demandé de chanter pour cette dictature, j'ai refusé. Donc ça devenait invivable, intenable, donc il fallait que je parte.
Vous vous souvenez, quand vous êtes arrivé en France, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu?
Alors, quand je suis arrivé en France, c'était le 11 septembre 1983. Il y avait du soleil, je me suis dit, ouais, c'est cool, il fait chaud comme un cotonou. J'ai commencé à enlever mes vêtements et j'ai chopé la crève ce jour-là.
Alors, s'en sont suivies de longues années de débrouille, de précarité, où malgré le succès que vous aviez au Bénin, vous avez dû tout recommencer à zéro, Angélique Kidjo. Et vous êtes arrivé de vous dire que tout compte fait, vous auriez mieux fait de rester à Cotonou?
Non,
à l'époque.
Jamais. Parce qu'avant de partir, j'ai eu une conversation quand même assez intéressante avec mes parents. Mon père et ma mère m'ont dit, ce n'est pas la même chose que tu vas retrouver là-bas. Ils avaient deux soucis. La prostitution et la drogue. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Donc, je savais que quand j'arrivais ici, j'allais travailler.
Mais qu'est-ce que ça a été le prix à payer pour la liberté?
Travailler des heures indues, coiffer les gens dans les salons de coiffure, faire des ménages dans les chambres d'hôtel, faire du babysitting. À partir du moment où je gagne mon argent, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de honte à faire n'importe quel métier. En fait, c'était un défi pour moi qui m'excitait, qui me permettait de me lever tous les jours parce que cette passion pour la musique que j'avais, c'était mon moteur pour tout, pour arriver à chanter. Et j'ai commencé à faire des chœurs dans les groupes parce que je me suis dit, tu as toujours été devant, tu ne sais pas comment ça se passe derrière. Donc, j'ai commencé à faire les chœurs. Alors, les deux autres nanas qui chantaient avec me disaient, allez, toi, on te met dans le fond, ta voix est trop forte, ça nous couvre. Je dis, d'accord, ça commence bien. Mais je n'ai jamais, à aucun moment, je ne me suis jamais demandé à ce qu'on me roule le tapis rouge. Parce que je savais qu'il fallait que je me reconstruise complètement et qu'il n'y avait plus papa et maman. Parce que moi, j'ai toujours fait la musique en famille et toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je me suis dit, je suis adulte. C'est-à-dire que les décisions que je prends, les erreurs que je vais faire et les succès que j'aurai, ce sera parce que j'aurai travaillé pour.
L'émancipation que vous venez juste de définir, c'est ce qu'elle incarne pour vous, la chanteuse cubaine Celia Cruz, à qui vous rendez hommage dans votre nouveau disque?
Absolument. Elle, pareil, on a eu pratiquement le même parcours. Elle est partie parce que la politique de Castro ne lui allait pas. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Quand on aime la liberté, pour soi, on la veut pour tout le monde.
Celia Cruz, c'est une des grandes ambassadrices de la salsa cubaine dans le monde entier. La salsa qui est depuis longtemps un genre musical très populaire au Bénin. Comment ça se fait d'ailleurs, ça?
Ah ben dis donc, c'est toute l'Afrique, hein. Il y a eu des groupes de salsa qui étaient très, très, très connus. Il y avait un chanteur de salsa sénégalais qui s'appelle Laba Sossé qui était très connu. Les allers-retours à la fin de l'esclavage entre les Cubains, les Brésiliens, les Caraïbéens et les Africains, ça a toujours eu lieu, ça. C'est-à-dire que la volonté de détruire n'a jamais été plus forte que la réalité de revenir et de voir d'où on vient. Et cette musique, l'aller-retour a créé aussi la rumba zaïroise quand les Cubains sont revenus. Les non-religions ont été à la base de la Santeria, qui est la fondation de la salsa, de même que le candomblé, c'est la racine de la samba et de la musique brésilienne.
Passionnant. Et du coup, à quel moment de votre vie est-ce que vous l'avez découverte, Celia Cruz, vous, Angélique Kidjo?
Moi, je l'ai découverte quand j'étais adolescente, parce que jusqu'à ce que Celia Cruz ne la voie sur scène, je pensais toujours que la salsa, c'était seulement un métier de mec.
Ah bon?
Tous les groupes de salsa, il n'y avait que des gars dedans. Tous. Il n'y avait même pas une choriste féminine dedans. Tous, ils étaient là, c'est un truc de mecs qui sont là. Et je me dis, mais bon, d'accord. Et puis Célie est arrivée, elle dit, bon, allez, les gars, vous allez manger de ça. Je vais mettre les pendules à l'heure et ça va être réglé. Et c'est ce qu'elle a fait.
C'est intéressant parce que vous dites que quand vous entendez sa voix, Célie Cruz, vous entendez l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais j'entends l'Afrique dans les résonances de sa voix. Et aussi, j'entends les percussions africaines. Quand elle a commencé sa carrière dans les années 50, elle chantait des chansons yoruba. Et elle a fait une interview sur la radio nationale américaine où on lui demandait, mais pourquoi est-ce qu'elle chantait en yoruba? Et elle a dit, mais moi, j'ai grandi à côté d'une prêtresse qui chantait et moi, j'apprenais phonétiquement. Donc, pour elle, elle disait, le yoruba que je chantais, c'était du yaourt. Et moi, je lui dis, de mon côté, quand j'ai commencé à chanter Celia, c'était de l'espagnol yaourt aussi.
Bon, on va l'écouter un petit peu, alors. Celia Cruz, tous les deux, qu'est-ce que vous en dites, Angélique?
C'est toujours, quand vous voulez, lundi, mardi, jusqu'au samedi.
Eh ben, on chante. Dimanche aussi. On chante un petit peu en même temps. Là, on est mardi, en l'occurrence. Okay.
Se quiere rosa, se quiere bailar, kimbara, kimbara, kimba, kimbamba. Bailo, baila María y también Joséito, kimbara, kimbara, kimba, kimbajito. Kimbara, kimbara, kimba, kimbamba, kimbara, kimbara, kimba, kimbamba. Kimbara, 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 mi kumba, kimba, kimbara, kumbara, kimba, kimbara, kumbara, kimba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kimba, kimbamba.
C'est carrément un duo là. C'est un duo entre Celia Cruz et Angélique Kidjo en direct ce matin. Celia Cruz qui chantait Kimbara en 1974. Et là, vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter.
Ah non, mais là, elle est arrivée avec cette chanson-là. C'est-à-dire que les discothèques, ça a changé tout. Hein. Les booms, les bringues, les balles poussières, tout ce qu'on faisait là. Dès qu'on mettait Kimbara, là, tout le monde était de boom. Même ceux qui ne comprenaient pas, tout le monde faisait sa choucroute de Kimbara. C'est ce que moi, j'ai commencé à faire. Et ce qui m'a intéressé dans cette version de sa chanson... C'est que jusque-là, la musique cubaine, c'était chanter, pan, tum, tum, plan, et les... elle arrive. Hé, les gars, moi, je ne vais pas chanter comme vous, là. Mais je vais vous amener en Afrique avec des rythmes, mais avec ma bouche. Oh là 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 là. C'était pas. Et j'étais là. Ah ouais, en tant que femme, on peut faire n'importe quoi.
C'est ce que vous essayez de produire, vous, encore aujourd'hui.
Ah, mais toujours. Bah, au jour d'aujourd'hui, on parle toujours de l'émancipation de la femme. On est au 21e siècle. Et les femmes sont toujours en train de demander ce qui leur est dû. Et la question que moi j'ai pour les hommes, c'est pourquoi vous avez peur que les femmes prennent leurs droits? C'est un truc que je ne comprends pas, parce que l'homme sans la femme n'existe pas, la femme sans l'homme, ça n'existe pas. Ça a été fait comme ça, on doit vivre ensemble. Et mon père disait toujours, l'homme qui abuse d'une femme, c'est qu'il a peur. Il est en insécurité totale. Le vrai homme, c'est celui qui accepte son côté masculin et son côté féminin. Et à partir du moment où on balance tous les deux, ces deux-là, la femme devient un partenaire à part entière.
Il y a Celia Cruz dans votre vie, dans votre trajectoire, et puis aussi Aretha Franklin.
Ah oui.
En quoi la découverte d'Aretha Franklin à 9 ans a changé votre vie?
Mais c'est la première femme qui était sur une pochette de disque. Parce que toutes les pochettes de disque de mes frères qui arrivaient, c'était que des mecs.
Bah, il y avait quand même Sylvie, Françoise et Sheila.
Bah oui, bah, c'était pas des femmes noires. Hein.
Ah oui, ça c'est vrai.
Bah voilà. Ouais. Sylvie, Sheila, pour moi, c'est, quand on est femme blanche, on peut faire la musique. Mais où est la femme noire dedans?
Vous savez qu'elles sont toutes venues dans Boomerang, donc si elles trouvent, elles écoutent.
Mais il faut leur dire ça. Parce qu'elles, c'est une des premières femmes que j'ai vues sur les pochettes. Mais je me dis, à qui est-ce que je peux m'identifier?
Oui.
Donc, elle arrive, et j'ai été prendre l'album, et là, ça a été. Je me suis assise, carrément, j'ai poussé un grand ouf. Enfin, une femme noire sur une pochette de disque.
Encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez sa voix, Aretha Franklin?
Ah, ça. La puissance, l'émotion, la justesse. Pas dans la voix, mais la justesse de ce qu'elle dit au moment où elle le dit. C'est-à-dire que quand elle est sur scène et quand elle chante, moi j'ai eu la chance de chanter juste après elle à Radio City Hall, il y a quelques années de ça, quand on a fêté les 100 ans, je crois, de Mandela, on avait fait un concert à Radio City Hall. Il y avait Stevie Wonder avant elle et elle après. Et je me rappellerai toujours la tête de mon mari dans les coulisses en train de se dire, mais comment tu vas faire pour chanter après Aretha Franklin? Je dis, mais c'est un être humain, c'est une chanteuse, non? Moi je chante aussi, elle me passe le bâton. Maintenant, il faut que j'assume. Et je me retourne, j'étais en duo, j'avais invité Alicia Keys à chanter cette chanson, ma chanson Afrique avec moi.
Tout est tellement classe avec vous, Angélique.
je me retourne, je la regarde, je dis, comment on fait? Elle me dit, mais on va aller les chicoter. J'ai dit, on y va.
Je veux dire quoi, chicoter?
On va aller leur donner la musique.
Ah d'accord. Et puis il y a la souffrance aussi quand même chez cette chanteuse. Aretha Franklin, comment on fait pour transformer la souffrance en quelque chose de beau, Angélique Kidjo?
Pour moi, il y a un mot qui fait le lien très bien entre Celia et Aretha. C'est le mot de Celia, azúcar. Azúcar, pour elle, ça veut dire sucre. Mais en même temps, le sucre, il y a de l'amertume. Dans la douleur, il y a de la douceur. C'est toujours cette dualité. L'être humain n'est pas aussi simple qu'on le pense. L'être humain est complexe. Quand on n'a pas connu la douleur, on ne peut pas chanter l'amour.
C'est ça que vous trouvez beau, vous, dans la vie?
Si vous passez la douleur, tomber plus bas que terre, arriver à se relever et à se projeter dans l'avenir, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ça, pour moi, la force de la femme. Les femmes, on arrive toujours à le faire, ça.
Alors, soyons humains et reparlons ensemble de tout ça après un hymne à la vie et à toutes ses nuances, un hymne d'espoir, la Bila Es Un Carnaval, que Celia Cruz enregistrait en 1998 sur l'album Mi Bila Es Cantar, une chanson dont vous en parlez avec fougue, Angélique. Vous êtes sur France Inter avec Angélique Kidjo. Vous écoutez Boomerang un mardi.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel aquel que piense que está solo y que está mal. Tiene que saber que no es así, que la vida no nadie es oro. Siempre hay alguien. Ah, 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 no hay que llorar. Tienes que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia.
Ah, 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 no hay que llorar.
Sur France Inter, Augusta Trapenard.
Mais elle a cette énergie communicative, vous savez, qui vous met tout de suite en confiance. Cette façon de vous dire, vas-y gars, lâche-toi, tu peux le faire. Autant vous dire que je suis à deux doigts de participer à un télécrochet ou à Danse avec les Stars, moi. Ce qui frappe, évidemment, c'est son regard si doux, qui vous désarme, et puis son sourire aussi. On a envie qu'elle nous prenne dans ses bras, qu'elle nous prenne en main. Elle peut tout demander, on lui répondra toujours oui, avec son pull safran ce matin, et avec son collier en or et ses boucles d'oreilles rondes, parce que la vie est un cycle, me dit-elle pendant ce disque. Angélique Kidjo, invitée de Boomerang ce matin pour Célia, ce nouvel album hommage à Célia Cruz, et dont on vient d'entendre un premier extrait. Et ce qu'on entend, c'est d'abord cette voix, la vôtre, Angélique. Quand est-ce que vous avez commencé à chanter, en fait ?
J'ai commencé à chanter, je crois, j'avais 6 ans. Mon père avait l'habitude de dire que j'avais commencé à chanter avant de commencer à parler. Comme tous les autres, j'ai fait le truc à l'envers, quoi, en fait.
Et quelle place avait la musique dans votre famille ? Je crois que votre mère avait une troupe de théâtre, ouais. Mais la musique ?
La musique était toujours là. Au centre. Mes frères ont décidé de faire l'un des premiers groupes de reprise au Bénin et mon père leur a acheté les instruments. Je suis revenue de l'école, je rentre dans la maison et en plein milieu de la cour, je vois des cartons. Je dis, mais qu'est-ce qui sent le plastique comme ça? Et j'essaie de mettre mon doigt dedans et puis ma mère donne un qui me dit, arrête ça! Et moi, je suis curieuse, moi, s'il y a un
truc. Qui, quoi, comment?
Il faut que je sache. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un orgue. J'ai vu une guitare basse, j'ai vu un ampli, j'ai vu ce qu'on appelle une batterie.
Et vous avez chanté avec vos frères alors ?
Ah ouais, ouais. Et j'ai mon frère avec lequel j'ai vécu ici en France, Yves. Lui, il joue à la batterie, mon frère l'a mis dessus, il a dit vas-y joue. Et moi je me suis dit mais comment est-ce qu'une personne peut jouer à tous ces trucs-là autour de lui ? La personne doit être complètement tarée.
Mais alors, ça vous arrive à vous de vous dire parfois que vous êtes complètement taré?
Ah oui, oui, mais je dois être taré pour faire ce que je fais, pour vivre la vie que je vis en passant par-ci, par-là. Mais j'aime bien les tarés, moi. J'aime bien les gens qui sont un peu fous, les gens qui sont trop normaux. Là, quand c'est pas ce qu'ils pensent, ils me foutent la trouille, mais grave, quoi.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les arts, tout compte fait?
Les arts me permettent de pouvoir continuer à garder mon humanité. Par mon travail avec l'UNICEF, je me suis retrouvée dans des situations où, c'était très, très difficile pour moi de comprendre cette douleur qu'on s'inflige les uns aux autres, surtout quand c'est des enfants innocents. Je reviens complètement détruite et la musique me reconstruit à chaque fois.
Il paraît qu'un jour, des camarades se sont moqués de vous quand vous étiez petite.
C'est que les injustices, je n'arrivais pas à les supporter. Et je me retrouvais dans des bagarres qui n'étaient pas les miennes. Mon père me disait toujours, mais pourquoi est-ce que tu te mêles des bagarres des autres? Je sais que tu aimes la justice, mais il faut que tu comprennes que les coups de poing et les bagarres, tu ne gagnes rien. Il n'y a pas d'argument que tu gagnes. C'est avec ton cerveau que tu défies les gens. Il faut arriver par ton cerveau à arrêter les conflits et à montrer aux gens la bêtise que c'est que la violence.
Mais on a essayé de vous empêcher de chanter.
Ah oui, on m'appelait la pute parce que je chantais.
Comment est-ce que vous analysez la violence de ce comportement, de cette réaction face à la figure de la chanteuse, de l'artiste? Pourquoi l'artiste est-il si mal considéré, en fin de compte?
C'est sexe, drogue et rock'n'roll. Quand ça atteint l'Afrique, les gens ont mal absorbé, les parents ont mal absorbé ça. Mais c'est pas seulement moi, les garçons, quand t'es un musicien et que tu fais la cour à une fille... les parents lui disent, mais celui-là, il n'a pas de métier, c'est quoi ce truc-là? C'est un drogué, lui. Dégage. Donc, c'est ça, le truc. Dans le subconscient des gens, quand on fait de la musique traditionnelle, c'est autre chose, parce que notre histoire est racontée à travers la musique et les contes. Mais quand on commence à utiliser ce qu'ils appellent les instruments du diable, alors là, c'est plus bon du tout.
Vous les aimez bien, vous, les instruments du diable?
Ah, je les adore, moi.
Puis l'artiste, c'est celui qui apporte de l'émotion. Pourquoi c'est indispensable, l'émotion, pour vous, Angélique Kidjo?
Moi, je crois qu'un être humain n'est pas complet s'il n'y a pas de spiritualité. Et l'émotion à avoir a beaucoup de spiritualité. Notre connaissance du bien et du mal, même si on ne le touche pas, on sait très bien au fond de soi quand on fait quelque chose de bien ou quand on fait quelque chose de mal. Moi, je pars du principe que nous savons tous que quand on ment pour en profiter et pour faire du mal à l'autre, tôt ou tard, on le paye, d'une façon ou d'une autre. Mon père avait l'habitude de dire... que les paroles et les actions résonnent dans le cosmos et ça se remplit d'autres énergies et quand ça revient vers vous, vous avez intérêt à être bien dans vos bottes, sinon ça vous emporte. Donc pour moi, l'émotion, c'est ça. L'émotion n'a pas de langage, n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité et ça, on ne peut même pas l'expliquer. C'est quand quelqu'un me demande, c'est quoi l'inspiration? Je suis incapable de vous expliquer ça. C'est quelque chose qui vit en moi et quand ça a besoin de sortir, je n'ai pas le pouvoir ni la force de l'arrêter. Donc pour moi, c'est ça, si on ne peut pas l'acheter, on peut pas mettre dans une bouteille, c'est pour ça qu'on est encore là. Parce que si on pouvait l'acheter, nous serons tous déjà morts.
Vous avez vu qu'on a été rejoint par plein d'émotions dans ce studio.
On arrive.
Ce matin par David Donatien aux percussions, par Clément Petit au violoncelle qui sont avec nous. Et avec eux, vous avez choisi de reprendre une chanson de Claude Nougaro qui s'appelle Toulouse. Toulouse où vous serez bientôt, je crois. Pourquoi ce titre, Toulouse, tiens?
Ça a été l'une des premières chansons que j'ai chantées quand je suis arrivée en France, quand je passais des auditions pour les écoles de musique.
Ah bon?
Il fallait chanter une chanson française et ça me parlait beaucoup. Parce que qu'il est loin, mon pays, mais il est loin. Je venais d'arriver de Cotonou et c'était difficile pour moi. Et même si je parlais la langue française, il fallait s'adapter. Et ce que j'aime, j'ai appris à connaître Nougaro plus tard. Ce que j'aime chez Nougaro, c'est sa fierté de son identité. Dans ce pays qu'est la France, qu'on vienne du sud, du nord ou de l'est ou du centre, tout le monde doit être fier de là où il vient. C'est comme ça que la France peut se tenir debout, parce que ces différentes cultures qui existent, l'Occitan, les Basques, les Bretons, les Ch'tis, comme on les appelle, tout ça, c'est ça qui fait la France. La France n'est pas uniforme. Quand on parle de la France, il faut parler de la France dans son sens le plus large du terme. Ce n'est pas seulement les Français qui font la France. Il y a les Italiens, il y a les Allemands, il y a les Marocains, il y a les Algériens, il y a des Africains, il y a tout, en fait. C'est ça, la France.
Alors, debout, Angélique Kidjo, on y va.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On
se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église s'est cernée, illumine le soir. Une fleur de corail que le soleil arrose, c'est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé au massité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne, ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sur le ventouse. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse.
Angélique Kidjo, rien que pour nous, rien que pour vous, accompagné par David Donatien aux percussions et Clément Petit au violoncelle, chante Claude Nougaro. C'est dans Boomerang exclusivement. Merci de ce superbe cadeau. Je rappelle que votre nouvel album, Angélique Célia, est disponible, que vous serez le 14 mai au Bataclan, puis le 16 juin à Toulouse, justement, pour le festival Rio Loco, La Voix des Femmes. Vous allez la chanter, cette chanson, là-bas.
J'espère
aussi. Merci encore. Et merci à Paul Percheron et Michel Bézikian pour la très belle prise de son ce matin.